Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Je suis Emeline Amétis.
C'est parti!
Bienvenue dans ce nouvel épisode court de Quoi de Meuf. Cette semaine, on replonge dans une terrible affaire de violence policière grâce à la mini-série Oussekine diffusée sur Disney+. Il aura fallu 35 ans pour que ce bout d'histoire soit transposé sur les écrans. L'occasion de se rendre compte que lorsqu'il s'agit de rendre justice aux victimes de violences policières, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 1986 et on en discute avec Emeline. Salut Emeline, ça va ?
Ça va et toi ?
Oui, ça va très bien. Est-ce que tu peux nous faire un peu le pitch d'Oussekine ?
Oussekine raconte l'histoire vraie de Malik Oussekine, un jeune étudiant de 22 ans battu à mort dans le hall d'un immeuble parisien par des policiers voltigeurs, et ce alors qu'il revenait d'un concert de jazz dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986.
L'audience est ouverte.
Ça va être éprouvant, on le sait. C'est pas le moment de vous décourager.
Bouge pas, toi ! Bouge pas !
La vérité, c'est qu'il y a des gens qui nous en veulent d'oser réclamer justice. Ils veulent tout faire pour nous en empêcher.
On doit rester unis.
Malik Oussekine, Oussekine, Oussekine.
L'affaire risque de prendre une ampleur sans précédent.
Nous devons rester dignes.
Justice pour Malik !
Pour préciser, les voltigeurs, c'était des brigades de policiers équipées de motos tout-terrain pour infiltrer rapidement les cortèges de manifestations. Et en décembre 86, ça fait déjà plusieurs semaines que des étudiants battent le pavé contre le projet de réforme de l'université d'Evaquet. Le drame va rapidement devenir une affaire d'État qui va ébranler le gouvernement de l'époque. Au lendemain du meurtre de Malik Oussekine, la réforme est annulée, le ministre démissionne et le peloton de voltigeurs motoportés, l'unité de police responsable de sa mort, est dissoute. Mais la série raconte surtout la trajectoire de celles et ceux qui lui ont survécu. Ses proches, ses frères, ses sœurs, sa mère, qui ont pris de plein fouet la machine étatique, le harcèlement raciste et qui vont peiner à faire le deuil du petit dernier de la famille française d'origine algérienne.
Oui, c'est vrai que la particularité de cette mini-série, c'est d'accorder une attention à la fois au drame familial, mais aussi au crime policier.
Oui, tout à fait. La série parvient très bien à montrer tout ça. Et la première création française de Disney+, ça a été signé par Antoine Chevrolier, déjà réalisateur de quelques épisodes du Bureau des Légendes et de la saison 3 de Baron Noir avec Kahn Merad. Et dans une interview accordée à Télé 7 Jours, il raconte avoir entendu parler pour la première fois de Malik Oussekine alors qu'il n'était qu'adolescent dans les années 90, puisque dans la compilation de rap qui accompagne la sortie du film La Haine de Mathieu Kassovitz, il y a une track du groupe Assassin et dans son refrain, l'État Assassin. Assassine, un exemple, Malik Oussekine. C'était donc déjà un projet que le réalisateur mûrissait de longue date quand la direction des programmes de Disney+ l'a contacté.
Oui, c'est vrai qu'on va revenir un peu sur pourquoi est-ce que Disney a choisi de développer cette série. Mais on peut rappeler quand même, si on fait un petit retour en arrière, que dans l'affaire Oussekine, il n'y a aucune zone grise. Malik Oussekine n'avait pas bu, n'avait pas fumé, il n'avait pas de casier judiciaire. En fait, il sortait tranquillement d'un concert.
Effectivement, tu fais bien de le rappeler. Pour autant, pour Antoine Chevrolier, il était impensable de s'y atteler seul. Il monte alors une équipe de scénaristes et s'entoure de Faïza Ghen, l'autrice à succès de Kif Kif Demain, du réalisateur Cédric Ido et de Julien Lilti. Et parce qu'il souhaitait rester au plus près de la réalité pour ce biopic, Antoine Chevrolier a fait appel à la documentariste Lina Swalem, qui avait réalisé le touchant Leur Algérie en 2021, consacrée à ses grands-parents paternels. C'est elle qui s'est occupée de lire toutes les informations sur l'affaire, d'éplucher les archives, et c'est son travail qui a servi de fil conducteur au scénariste.
Oui, on peut rappeler ici que c'est vraiment les acteurs et les actrices qui portent cette mini-série. Oui. Il y a la mère, Aïcha, qui est jouée par Iyam Abbas, dont tu vas en parler un peu après,
mais
adoré dans Succession. Les frères Ben Ammar et Mohamed, qui sont respectivement interprétés par Malek Lamraoui et Toufik Jalab, ainsi que les sœurs Fatna Anna et Sarah, qui sont jouées par Neidra Ayadi et Mouna Soualem. On y retrouve également Kadmerad, dans le rôle de l'avocat de la famille Ousekine. Donc chacun interprète une manière de comprendre ce qui arrive sur le plan du meurtre du jeune Malik, mais aussi sur le plan du devenir de ce meurtre en affaires politiques.
Oui, et d'ailleurs, selon moi, ce qui est au cœur de l'intrigue, c'est l'intime. Comme je le disais au début, on le voit, il s'agissait plus de rendre hommage à la famille que d'en faire un polar en traitant l'affaire d'un point de vue strictement politique et médiatique, notamment sur le duel droite-gauche au moment de la cohabitation entre Mitterrand, président socialiste, et son premier ministre de droite, Chirac. Et c'est peut-être aussi ce qui a amené Disney à le produire et ce qui a soulevé certaines critiques d'ailleurs. On ne voit pas Pasqua ni la montée du Front National.
C'est quand même assez fou alors que c'était des éléments quand même critiques dans l'affaire.
C'est vrai. Par ailleurs, il y a eu, selon l'équipe de tournage, beaucoup d'échanges avec la famille Ousekine, notamment les deux frères aînés de Malik, Ben Ammar et Mohamed, et c'est ce qui a permis d'enrichir le scénario historique d'anecdotes personnelles.
On a eu la chance avec Julien et le reste de nos camarades à l'écriture de rencontrer les frères de Malik Ousekine qui nous ont généreusement accompagnés, qui nous ont...
Donc Mohamed et Ben Ammar.
Absolument, qui nous ont offert du temps et même confié des objets qui appartenaient à Malik, notamment une mallette qu'on peut voir dans les épisodes de la série, où il avait ses papiers, ses affaires personnelles. Donc on a été vraiment au plus près de leur ressenti d'abord, de la manière dont eux personnellement, parce qu'on a choisi encore une fois de raconter cette histoire de manière intime et donc de manière très universelle, puisque c'est le deuil, c'est le chagrin d'un frère, d'une mère.
Ouais, il y a une scène à la fin qui, moi, m'a particulièrement touchée, c'est qu'on on les voit toutes et tous, donc la famille Ousekine, à la fin de la série. Il doit rester quelques secondes et on les voit sur des plans qui sont assez frappants, le regard droit vers la caméra. C'était un moment qui était assez intense.
Oui, je suis d'accord, effectivement.
Et est-ce que tu peux nous donner quelques clés sur ce que représente cette mini-série Ousekine ?
Oui, tout à fait. S'il y a quelque chose que la série parvient à bien faire, c'est qu'elle ne détourne pas le regard de ceux qui ont pris en chasse Malik Ousekine, ni de ceux qui les motivaient. En ça, la série, elle rend sans doute plus justice que la plaque commémorative au pied de l'immeuble du 20 rue Monsieur le Prince à Paris, puisque Malik Ousekine n'était pas seulement un étudiant de 22 ans qui a été frappé à mort lors d'une manifestation, c'était un étudiant français né de parents algériens qui a été frappé à mort à 22 ans par trois policiers en service, dont deux d'entre eux ont été reconnus coupables de l'homicide par la justice mais n'ont écopé que de peines de sursis.
Oui, il y a la question de l'impunité qui est au centre, finalement, de l'affaire. Et peut-être qu'on peut citer un bout de ce que prononce Mohamed, donc l'aîné de la famille Ousekine, lors du procès. Donc il dit, je cite, « J'ai fait le maximum pour que Malik se sente autorisé à tout faire, tout. Je lui ai appris qu'il fallait avoir de l'ambition, croire en soi-même, et ça a marché. Il n'avait pas peur, il était très confiant. Je voulais le préserver. Aujourd'hui, je me sens responsable de sa mort en quelque sorte, parce que c'est moi qui lui ai appris qu'on était en sécurité dans notre pays. » Qu'on était fort, qu'on était chez nous. Et chez soi, normalement, on se sent en sécurité, on se sent à l'abri, on se sent protégé.
Et justement, en fait, cette impunité laisse la voie ouverte à d'autres blessures et à d'autres crimes. Et il y a aussi cette idée à l'écran que cet événement n'arrive pas par hasard, mais qu'il représente la continuité d'une histoire qui est bien française. C'est notamment illustré dès le premier épisode par un flashback situé à Paris en octobre 61, vu à travers les yeux du frère aîné de Malik, Ben Ammar, à l'époque encore enfant. Caché derrière une barricade, les membres de la famille Ousekine regardent épouvantés des policiers tirés à bout portant sur des manifestants algériens, puis en jeter plusieurs d'entre eux dans la scène. Et au micro de France Inter, dans l'instant M, Faïz Aghen parle d'une blessure transgénérationnelle.
On a aussi beaucoup réfléchi à cet aspect de la blessure transgénérationnelle.
C'est ça.
Qui, je crois, raconte beaucoup de choses, explique beaucoup de choses, et aussi met le doigt sur le fait qu'il faut aller chercher du côté de cette mémoire pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est-à-dire que la question des violences policières, évidemment, elle n'est pas née avec l'affaire Malik Ousekine.
Non, il faut rappeler ce que c'est 61. Vous le mettez vraiment comme un épisode clé, une séquence clé à l'intérieur du premier épisode.
Donc octobre 61, pour aller vite, c'est une manifestation pacifique d'Algériens qui donc manifestait pour l'indépendance dans les rues de Paris. De manière pacifique, je le répète, et c'est une manifestation qui a été réprimée très violemment. On parle de 200 à 300 morts, dont des gens qui ont été abattus et jetés dans la Seine. Donc, et c'est quelque chose qui, encore une fois, jusqu'à présent, n'est pas reconnu comme un crime d'État. Mmh. Et cette histoire-là, elle fait partie de toutes ces histoires qui hantent encore maintenant des générations, dont la mienne encore.
Ça n'a l'air de rien, mais en quelques secondes, on donne du contexte aux spectatrices et spectateurs. En remontant au traumatisme du massacre des manifestations de 61 à Paris, on comprend que l'histoire des violences policières ne commence pas avec Malik Houssekine, mais aussi qu'il y a une dimension coloniale et raciste dans ce meurtre.
La série cherche en effet à montrer et à mettre en évidence le caractère non isolé de ce meurtre, mais bien son inscription dans une histoire qui est beaucoup plus longue et qui pose la question du droit à la vie, à l'existence.
Au-delà de tout ça, je pense que la série sert aussi à préserver la mémoire et à faire la lumière sur cette affaire pour les générations qui ont suivi, dont je fais partie, et qui connaissent les luttes d'aujourd'hui. Alors moi, j'ai pas envie de faire de raccourcis, même si les deux meurtres ne se sont pas déroulés dans les mêmes circonstances. Pour moi, c'est impossible de ne pas voir le lien entre l'affaire Adama Traoré et celle de Malik Houssekine, notamment au niveau de la course-poursuite, de l'argument fallacieux « on ne court pas quand on n'a rien à se reprocher », du médecin légiste « on a trouvé à Adama des troubles respiratoires après cette altercation avec les policiers qui a quand même causé sa mort ». Et puis, il y a eu la persécution de la famille aussi, donc des familles Houssekine et Traoré qui ont fait l'affront de demander justice. Amal Bentounsi, la sœur d'Amine Bentounsi, qui est un jeune homme assassiné par un policier en 2012, parle sur Twitter, je la cite, elle parle d'une série historique qui rappelle le corporatisme, le racisme policier et les manœuvres politiciennes de l'époque, sans rappeler notre combat. Elle poursuit, il y a une culture de l'impunité policière qu'il va falloir régler dans ce pays, la France. 36 ans plus tard, la justice continue à condamner les policiers à du sursis ou des non-lieux pour avoir tué un homme. L'impunité crée des monstres.
Dans la défense qui est mise en place tout au long de l'affaire Houssekine, c'est que Malik est décédé parce qu'il avait un problème au rein et non pas mort à la suite des coups qui lui ont été infligés.
Tout à fait.
Et donc du coup, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur la série, ce que t'en as pensé, ce qui est à retravailler et ce qui est peut-être intéressant à emporter ?
Bah, j'avoue que j'étais un peu surprise de voir Disney Plus s'emparer du sujet. Pour autant, je pense que la série tient ses promesses. Elle tombe pas dans l'écueil du polar anecdotique, de la caricature ou du récit monolithique. Et elle illustre même plutôt bien à quel point les instrumentalisations politiques de la droite et de la gauche ont profondément abîmé la famille Houssekine. J'apprécie vraiment qu'il s'agisse de ça, de les remettre au centre du drame qui les a sidérés, qui les a déchirés, de questionner ce que ça signifiait pour eux de se retrouver au milieu de la rivalité entre la gauche et la droite, et d'interroger aussi l'intégration dans la société française. J'ai par ailleurs trouvé le jeu d'acteur très juste. C'était la première fois que je voyais l'actrice franco-palestinienne Iyam Abbas à l'écran. Je sais, j'ai un peu honte, je l'avais aperçue dans ce succession, mais alors j'avais pas du tout accroché avec la série sur les ultra riches. Là, j'ai arrêté au bout du premier épisode. Enfin, bref.
Il faut se mettre dedans. C'est quand même particulier.
C'est un peu
d'accord.
Particulier quand même. Mais bref, j'ai certainement plein de choses à rattraper avec elle parce que je l'ai trouvée vraiment incroyable, formidable dans la série d'Antoine Chevrolier. Et puis j'ai appris que le film Nos Frangins de Rachid Bouchareb, le réalisateur d'Indigène entre autres, a été présenté hors compétition en avant-première à Cannes. Alors cette fois, en plus de la mort de Malik Houssekine, le film va aussi aborder l'affaire bien moins médiatisée d'Abdel Ben Yahia, un jeune Français d'origine maghrébine tué par balle à 19 ans par un policier ivre à Pantin le même soir que Malik Houssekine.
Parler de Malik Houssekine et d'Abdel Ben Yahia, c'est quelque chose qui, moi, j'avais pas loin de 30 ans, je crois, 28 ans. 30. Et donc, j'étais en direct avec les événements à cette époque-là. Tout le mouvement de la loi de Vaquet, et les violences policières qui se sont passées à deux endroits différents, une très connue qui est celle de Malik et une moins connue, celle d'Abdel. J'ai décidé, après mon horloge personnelle, de dire bon bah voilà, je vais faire ce film aujourd'hui.
Alors, j'ai pas encore eu la chance de le voir, et même si j'imagine qu'il lui sera plus difficile de ne pas rester en surface, parce que par rapport à la série qui dispose de 4 heures, j'ai hâte de le découvrir. Et je ne doute pas que lui aussi saura marquer les esprits, en tout cas je l'espère sincèrement, parce qu'il n'y aura pas trop de deux œuvres sur ce sujet. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Cassandra ?
Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense que, comme la plupart des familles de violences policières, je trouve que la série montre bien que la famille Houssekine a été prise de court, et montre bien le tourbillon médiatique qui s'ensuit. Et il me semble que la sœur de Malik, justement, Sarah Houssekine, qui est jouée par Mouna Soualem, qui joue d'ailleurs très très bien, est une des seules à avoir pris la mesure des multiples instrumentalisations de l'affaire. Maintenant, bien sûr, moi j'ai un peu du mal à cerner les objectifs et les buts de Disney. Il y a un côté lisse à la série et qui enlève la dimension politique qui me pose problème. Mais je me dis que d'un autre côté, peut-être que ça peut permettre à une autre génération et aux plus jeunes de prendre conscience et de parler de violences policières en les mettant vraiment en lumière. Mais j'ai trouvé globalement la série plutôt intéressante et elle vaut le coup d'œil.
Oui, vraiment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir échangé à ce sujet avec moi, Cassandra.
Merci beaucoup à toi.
À bientôt.
À bientôt. Quoi de meuf est une émission de Nouvelles Écoutes, rédaction en chef Clémentine Gallo, journaliste chroniqueuse
Emeline Amétis,
montage et mixage par Laurie Galligani, prise de son par Adrien Beccaria à l'arrière-boutique, générique réalisé par Aurore Mailleux, réalisation et coordination Cassandra de Carvalho et Mathilde Jonin.